Il y avait beaucoup de gens en voiture. Il nous a fallu 2 jours pour atteindre Goris. Nous avions faim et soif sur la route. Nous avons dû arrêter la voiture pour demander du pain aux gens, pour nos enfants.
Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde, 10 minutes pour tout comprendre sur un fait d'actualité. Bonjour Nicolas Poincaré.
Bonjour Pierre Coran.
La France a donné son accord pour l'envoi de matériel militaire à l'Arménie. On vous explique. C'est le plus ancien conflit du monde post-soviétique. La guerre que se livrent l'Arménie et l'Azerbaïdjan a commencé à la fin des années 80 et après une longue période de statu quo, l'Azerbaïdjan a lancé une offensive sur un territoire revendiqué par des autonomistes arméniens, le Haut-Karabakh. En quelques heures, des centaines de milliers de réfugiés se sont retrouvés sur les routes et désormais, on s'inquiète d'une progression de l'armée azerbaïdjanaise sur le territoire de l'Arménie. La France a dépêché sa ministre des Affaires étrangères sur place cette semaine. L'Arménie est-elle prête à affronter ce choc? 3 bonnes raisons d'écouter ce podcast avec toi, Nicolas.
Alors, on va d'abord commencer par raconter la complexité du Caucase, cet incroyable patchwork de peuples, de langues et de religions. Après la victoire de l'Azerbaïdjan dans l'enclave du Caucase du Karabakh, on va voir que l'Arménie craint maintenant une nouvelle offensive qui, cette fois, aurait lieu sur son territoire. Et puis, je vous parlerai de la dynastie des despotes, les Aliyevs, qui dirigent l'Azerbaïdjan depuis plus de 40 ans, et sans doute pour assez longtemps encore.
Expliquez-nous le monde.
Un podcast RMC.
Nicolas Poincaré.
Pierre Courade.
Avant de développer, Nicolas, on va faire donc un point géographique sur cette région. On est entre la mer Noire et la mer Caspienne. C'est un petit territoire où il y a la Turquie et l'Iran au sud, la Géorgie et la Russie au nord. On est vraiment dans le Caucase, dans cette partie de ces anciennes républiques soviétiques.
Le Caucase, c'est d'abord une chaîne de montagnes avec des sommets à plus de 5000 mètres d'altitude qui va effectivement de la mer Noire à la Caspienne. Et sur cette chaîne de montagnes, depuis toujours, sont venus buter toutes les conquêtes, toutes les croisades, toutes les migrations. Et ça donne un patchwork absolument hallucinant de peuples. Au nord, vous avez la Kabardino-Balkarie, l'Ingouchie, la Tchétchénie, le Daghestan. Au Daghestan, on a compté qu'il y avait 53 langues différentes qui étaient parlées d'une vallée à l'autre. Les gens.
C'est un petit territoire.
Voilà. Et puis au sud, effectivement, la Géorgie et l'Arménie et l'Azerbaïdjan, historiquement ennemis, les chrétiens orthodoxes arméniens face aux musulmans chiites azerbaïdjanais. C'est un conflit qui dure depuis longtemps et qui a un responsable principal, c'est Staline, qui dans les années 20 avait dessiné des frontières pas normales. Un peu plus loin dans le Caucase, il avait fait l'Ossétie du Nord et l'Ossétie du Sud, il les avait mal placées exprès, lui-même était géorgien, lui-même était Ossète, il avait son propre village de naissance, il l'avait mis du mauvais côté de la frontière.
C'est divisé pour mieux régner, quoi, finalement.
Et mettre des petites bombes qui explosent aujourd'hui, 80 ans après. Et donc, une de ces bombes à retardement, c'est effectivement d'avoir placé en Azerbaïdjan une région qui était historiquement arménienne, qu'on appelle le Haut-Karabakh, qui était peuplée d'Arméniens, mais située sur le territoire de l'Azerbaïdjan. Et donc, depuis 88, on a ce conflit. Et ce conflit, effectivement, vient de très mal se terminer pour les Arméniens, puisque l'armée azerbaïdjanaise a lancé une offensive éclair. Et en quelques heures, les Arméniens ont dû déposer les armes, ils ont perdu militairement. Et on a vu à ce moment-là cet exode. On a tous vu ces images très impressionnantes, donc d'environ 100 000 personnes, la population arménienne de cette enclave, qui a pris la fuite, qui a rempli comme elle a pu ses voitures et qui est allée se perdre sur des fils de bouchons, etc., pour passer en Arménie, pour être accueillie en Arménie. C'est exactement ce qu'on appelle une opération de nettoyage ethnique, opération réussie. Donc les Azéris ont chassé les Arméniens de leur territoire.
Et c'est dans ce contexte donc que la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, s'est rendue à Erevan, la capitale de l'Arménie, ces jours-ci. Est-ce que ce n'était pas trop tard?
Alors, c'était trop tard pour le Karabakh. Hein. Les Arméniens ne rentreront pas au Karabakh. Personne ne l'imagine. Mais c'était tout de même un voyage important. D'abord parce que c'est un des rares pays, la France, qui est allé vraiment manifester son soutien à l'Arménie. On a annoncé à l'occasion de ce voyage une aide militaire. Alors, ça reste très flou. On n'a rien précisé du tout sur le nombre d'armes qu'on va leur donner.
L'envoi de matériel militaire. Voilà, ça a été décidé.
Ouais, et défensif. On a précisé, ça ne mange pas de pain. Voilà. Avant son départ, Catherine Colonna avait aussi annoncé une décision importante, c'est que la France va ouvrir une antenne consulaire tout au sud de l'Arménie. Alors, oui. Pourquoi ? Parce que effectivement, ce qu'on craint maintenant, et ce que voudrait éviter la France, et c'est pour ça que Emmanuel Macron en a parlé très tôt à la télévision en France, et puis qu'il a envoyé Catherine Colonna sur place, c'est qu'on craint une nouvelle offensive de l'Azerbaïdjan tout au sud de l'Arménie. Pourquoi ? Parce que Staline, encore une fois perverse, avait aussi placé une enclave azérie au sein de l'Arménie, ça s'appelle Nakhichevan. Bon, ouais. Et c'est une région effectivement qui appartient à l'Azerbaïdjan, mais qui n'a pas de lien direct avec le reste du pays, qui est enclavé. Et donc les Azéris, on le sait depuis longtemps, voudraient assurer la continuité territoriale avec cette enclave, et donc eh bien créer un corridor, attaquer l'Arménie, leur piquer un petit bout du territoire tout au sud, pour assurer la continuité territoriale avec cette enclave, qui elle-même a une frontière commune, petite frontière minuscule commune, avec la Turquie. Et alors là, ça devient très très important pour les Turcs, parce que ça veut dire qu'on a une continuité territoriale d'Istanbul jusqu'à la mer Caspienne. Et c'est le rêve ottoman. C'est très important pour les Turcs et les Azéris de faire cette jonction. Ce sont deux peuples qui parlent la même langue, hein, c'est exactement la même langue, l'Azéri et le Turc. Ils disent on est deux pays, mais une seule nation. Donc il y a à la fois à Bakou et à Istanbul, Ankara, cette volonté de se réunir. Et pour ça, eh ben, il faudrait piquer un petit bout du territoire arménien. Et c'est ça que la France essaye d'empêcher, en ouvrant donc une antenne consulaire dans cette région du Sud. Alors, ce n'est pas un pauvre consul français qui va changer le cours de l'histoire à lui tout seul, mais c'est quand même un geste courageux et important de la diplomatie française de dire, attendez, pour nous, cette région du Sud de l'Arménie, elle est arménienne, on la reconnaît comme arménienne et on y ouvre même une antenne consulaire, donc une petite...
Un représentant
une antenne de l'ambassade. Voilà. Hein,
Et donc, la France fait ce geste symbolique fort. Les Européens, pas grand-chose finalement.
Alors les Européens, ils sont bien embêtés parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on manque de gaz depuis le début de la guerre en Ukraine. Oui. Et l'été dernier, Ursula von der Leyen s'est rendue en
la présidente de la Commission européenne.
Voilà, elle s'est rendue à Bakou et elle a signé des accords très importants avec l'Azerbaïdjan qui prévoient que ce pays va nous fournir jusqu'à au moins 2027 20% du gaz nécessaire à l'Europe en général et à l'Allemagne en particulier qui manque de gaz depuis les problèmes avec la Russie. Donc, on a cet accord énergétique et financier très important avec l'Azerbaïdjan. Et puis, on a une tradition de soutien à l'Arménie, notamment parce qu'il y a des communautés arméniennes très importantes, des diasporas arméniennes qui ont fui le génocide des années 1910-1920 et qui se sont réfugiées à Marseille, à Issy-les-Moulineaux, à Alfortville et dans d'autres pays européens. Donc, il y a une tradition européenne de soutien à l'Arménie. Et puis, il y a une raison très mercantile, très, très pratique, qui est qu'aujourd'hui, on a besoin du gaz de l'Azerbaïdjan.
Donc, on voit que la situation est quand même assez complexe pour les Européens qui ont besoin du gaz azerbaïdjanais. Mais en même temps, historiquement, l'Europe, et en particulier la France, soutient l'Arménie et les Arméniens. C'est encore plus compliqué si on rentre dans les détails des jeux d'alliance qui soutient qui dans la région.
Alors, accrochez vos branches si vous voulez.
Oui, il faut prendre des notes.
Qui soutient qui ? Historiquement, la Russie soutient l'Arménie au nom notamment d'une solidarité entre chrétiens orthodoxes. Sauf que la Russie, en ce moment, elle est entièrement accaparée militairement par l'Ukraine et donc elle ne soutient plus rien du tout. Elle a lâché son partenaire arménien. Du coup, l'Ukraine, comme ils détestent les Russes, qu'est-ce qu'ils font ? Ils soutiennent l'Azerbaïdjan, et ils arment même un peu l'Azerbaïdjan, alors qu'ils ont besoin de toutes leurs armes, l'Ukraine, mais ils arrivent quand même encore à en livrer un petit peu à l'Azerbaïdjan. La Turquie, on en a parlé, soutient l'Azerbaïdjan au nom de ce concept de pays, mais un seul peuple. L'Iran, logiquement, devrait soutenir l'Azerbaïdjan, parce que l'Azerbaïdjan est un pays musulman à majorité chiite, comme l'Iran. Donc, très logiquement, l'Iran devrait soutenir l'Azerbaïdjan. Eh bien non. Eh bien non, pour des raisons...
C'est trop simple.
Pour des raisons compliquées, l'Iran soutient l'Arménie, parce que, notamment, l'Iran ne veut pas de cette continuité territoriale dont on parlerait, qui couperait l'Iran de la Géorgie, de l'Arménie, de la Géorgie, de la mer Noire, et donc d'une possibilité d'exporter son pétrole par le Nord. Donc voilà, l'Iran, très curieusement, soutient les chrétiens d'Arménie. Du coup, Israël, qui devrait soutenir logiquement l'Arménie au nom de ces deux peuples qui ont vécu un génocide et au nom de la diaspora arménienne qui vit en Israël. Israël, logiquement, devrait soutenir l'Arménie. Eh bien non. Israël soutient l'Azerbaïdjan et arme l'Azerbaïdjan.
Et arme
beaucoup
aussi
d'armes à l'Azerbaïdjan. Pourquoi ? Eh ben parce que l'Azerbaïdjan est l'ennemi de son Iran, et l'ennemi de mon ennemi et mon ami. Ouais, et voilà. Et on n'a pas encore tout dit. Vous voyez la complexité du jeu des alliances dans cette région.
Et ça explique aussi peut-être ce flottement, ce statu quo pour l'instant dans ce jeu diplomatique et militaire. Et l'Azerbaïdjan, qui est donc soutenu par certaines démocraties, par d'autres pays un peu plus despotiques, et lui-même un État pas forcément fréquentable.
Non, c'est une dictature, on peut le dire. Franchement, il n'y a pas de liberté de la presse. Il y a une justice qui est aux ordres. Il y a des opposants qui sont emprisonnés ou qui disparaissent. Alors, ça fait 60 ans maintenant que ce pays est dirigé par la famille Aliyev. Le père, Heydar Aliyev, était au départ un général du KGB qui est devenu le premier secrétaire du Parti communiste d'Azerbaïdjan, donc le patron du pays dans les années 60, quand l'Azerbaïdjan était une république de l'URSS. Puis, après l'indépendance en 93, il est devenu le président. Puis, malade, il a laissé la place à son fils Ilham, qui dirige maintenant le pays depuis le début des années 2000, depuis plus de 20 ans et d'une main de fer. Il en est à son quatrième mandat. Il commence à se dire que ça fait long et qu'il ne se présentera pas pour un cinquième. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ?
C'est sage.
Il a désigné sa femme, son épouse, qui sera la candidate aux élections présidentielles qui, je crois, sont prévues en 2025 ou 2026. Donc, la dynastie est au pouvoir depuis 60 ans. Et moi, je vous parie qu'ils le sont encore pour un petit moment. L'Azerbaïdjan, c'est donc une histoire de famille, une histoire de pétrole et de gaz, hein, parce qu'on ne l'a pas assez souligné, mais l'Azerbaïdjan regorge de pétrole et de gaz. Et en face, la petite démocratie arménienne ne pèse pas lourd.
Eh bien, je pense qu'on y voit un petit peu plus clair. En tout cas, si vous avez pris des notes et si vous n'avez pas tout compris du premier coup, vous pouvez toujours écouter ce podcast en replay. Merci de nous avoir écoutés. Merci, Nicolas. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner. Nous sommes présents sur toutes les plateformes et sur le site et l'appli RMC. On se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Pierre.
Retrouvez Nicolas Poincaré tous les matins à 6h50 et 7h50 dans Apolline Matin sur RMC.